والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, ce soir nous avons lu le 10e sipara. Donc ça fait déjà le tiers du Coran qu'on a lu depuis le début du Ramadan. Alors mes chers frères, ce soir, les versets que contenaient la sourate Al-Anfal et la sourate Tawbah sont remplis de richesses, sont remplis de sagesse, comme tous les versets du Coran bien sûr. Mais il y a certaines choses, si on voulait développer tous les points vraiment importants, marquants, qui peuvent nous être utiles, il faudrait des nuits et des nuits. On pourrait, parmi ces points-là, citer, on se limitera à deux points. Le premier, c'est l'histoire de la campagne de Badr. Lors de la campagne de Badr, on ne va pas raconter l'histoire, c'est des choses que nous connaissons, nous avons appris à la madrasa quand on était petit. Mais il y a quelque chose qui, je ne sais pas ce qu'on a l'habitude d'entendre ou non, dans le verset numéro 49, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. Alors Shaytan, il s'était présenté au Quraysh sous l'aspect d'un homme, sous l'aspect d'un homme, et il a rassuré les Quraysh. Lorsque, histoire brièvement, la caravane des Quraysh était accompagnée de 40 hommes, et le prophète avait dit aux Sahaba que les biens qui vous ont été volés à Makkah, vous allez les récupérer dans cette caravane. Donc les musulmans étaient sortis avec une armée d'à peu près 313 personnes. Et lorsqu'Abu Sufyan, qui était donc le responsable de la caravane, a eu vent qu'une armée allait intercepter la caravane, il a fait demander des renforts de Makkatul Mukarrama. Il y a eu à peu près 1000 personnes qui sont venues renforcer les 40 Quraishites. Il y a eu à peu près 1000 personnes dans l'armée des Quraysh. Et c'était des gens qui avaient des chevaux, ils avaient des chameaux, ils étaient armés. Je ne dirais pas jusqu'aux dents, mais ils avaient des épées et des boucliers, alors que les musulmans, ils avaient, si je ne me trompe pas, deux chevaux, ils avaient quelques chameaux, et certains n'avaient même pas d'armes, même pas d'épées. Il y a un nombre d'épées très limité. Donc les Quraysh, les polythéistes de Quraysh, ils étaient fiers et sûrs de leur nombre. Ils étaient 1000 et en face, il y avait à peu près 313, c'est-à-dire 3 fois plus. Donc Shaytan, en plus de le surnom des Quraysh, Shaytan est venu les voir et dit: ne vous inquiétez pas, Al-Yawma, comment il dit ça? Aujourd'hui, personne n'aura le dessus sur vous. Je suis avec vous de toute façon. Comme si Shaytan dit: c'est moi qui vous protège, je suis avec vous. Alors, comment ils sont sortis? Ils ont adopté une démarche qu'Allah Ta'ala déteste. Hein? Ils sont sortis fiers. Hein? Dans d'autres versions, on verra qu'Allah Ta'ala interdit: wa la tamshi fil ardi maraha. Un musulman ne doit pas marcher la tête haute, le torse bombé. Même si on est costaud, on fait des abdos, on fait des pompes, on a des pectos bien, qui sortent bien, quoique hein, ce n'est pas trop le cas de nos jours. Même si on est costaud, ben, on n'est pas obligé de marcher, faire le coq. Ça, Allah Ta'ala déteste. D'accord? Et donc, ils sont sortis en marchant comme des coqs, fiers de leur force. Alors, comment c'est dit dans le Coran? Ria an-nas, mufakhara wa takabbur, avec orgueil et fierté. Alors, Shaytan était avec eux. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il dit que وَإِدْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَ. Ça c'était un travail de Shaytan. Shaytan a embelli leur action. Et ça se passe tout le temps comme ça. Même quand on a envie de faire un péché, mais Shaytan, il fait en sorte qu'on perçoit le péché comme étant plus doux. Même si c'est, allez, je vais le dire franchement, il y a une fille ou une femme qui traverse la rue. Même si c'est pas un Miss Monde ni Miss Univers, c'est pas un ton non plus, mais c'est quand même, c'est pas ce qui fait de mieux. Mais Shaytan fera en sorte qu'on va trouver cette femme-là plus jolie que toutes les Miss. J'étais sa parfaite femme et sa Miss Univers. Le Shaytan embellit le péché aux yeux de l'être humain. Que ce soit pour le regard, que ce soit pour ce qu'on écoute, la musique, que ce soit, quel que soit le péché, il y a un plaisir de le péché. Et en plus, Shaytan, il rajoute une couche. Hein, il fait en sorte que nous percevons le péché comme étant quelque chose d'exceptionnel. Alors que dans le fond, il n'est pas aussi beau que nous le croyons. Voyez? Et Shaytan était apparu sous la forme d'un homme qui s'appelait Suraqa ibn Malik ibn Ju'thum. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque les deux armées vont se rencontrer? Si on retrouve le fil du verset, voilà. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ. Lorsque, à peu près, hein, le sens, les deux armées, les deux groupes se sont rencontrés,
Il n'y a pas de quoi avoir peur. Il y a un côté, il y a 1 000 qui a 300. Non, logiquement, ils voient l'armée d'en face est beaucoup moins nombreux, pardon. Ils doivent être encore plus fiers. Mais Shaitan était avec eux et Shaitan a vu quelque chose que eux, ils ne pouvaient pas voir. Et Shaitan s'est enfui. Et là, il s'était étonné. Oh, Suraqa, qu'est-ce qui se passe? Tu nous donnais toutes les garanties. Maintenant, tu prends tes jambes à ton cou et tu nous abandonnes comme un lâche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lors du jour de Badr, c'était le seul moment de l'histoire de l'islam, selon la majorité des ulama, où Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé une aide directe au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire des malaïka. Les anges sont descendus du ciel spécialement pour combattre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre ses oppresseurs. Et il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé aux sahaba, il a eu le wahi, فَبَشَّرَ النَّاسُ بِجِبْرِيلَ فِي جُنْدٍ مِنَ الْمَلَائِكَ مَيْمَنَةَ النَّاسِ. Il a annoncé la bonne nouvelle qu'Allah ta'ala a envoyé l'ange Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, avec une armée des anges à la droite de notre armée. وَمِكَائِلْ فِي جُنْدٍ آخَرْ مَيْسَرَةَ النَّاسِ. Et Mikaïl alayhi salam est présent avec nous dans une armée, avec une armée de malaïka à gauche. Wa Israfil fi jundi akhri alf, et Israfil également, hein, celui qui soufflera, Israfil également, il est présent. Alors lorsque Iblis, lorsque Shaitan, qui était sous l'apparence d'un homme, lorsqu'il a vu, l'être humain ne voit pas les anges, mais les Shayatin, eux, ils voient les anges. Lorsque Iblis a vu ces anges, il a compris que, hop, car il est au feu là, il est mal parti là. Iblis a pris ses jambes à son cou, il est parti. Il sait qu'un ange, il sait, n'importe quel ange, il peut détruire Iblis si Allah lui donne l'ordre. Mais qu'est-ce qu'il voit, Jibril, Mikaël, Israfil, on appelle ça les archanges, les muqarraboun, les anges qui sont al-qurubiyoun, les anges qui sont proches d'Allah. Et lorsqu'il dit, oh Suraqa, en pensant que c'est cet homme, qu'est-ce qui se passe? Il dit, inni ara ma la taroun, inni akhafullah, Allah shadid al-iqab. Il a dit, je vois ce que vous ne voyez pas, je crains Allah. Et il est parti. Et puis, bon, le reste du bayan, il a dit, m'envoie un WhatsApp par SMS. Et il est parti. Il a pris ses jambes à son cou et Iblis s'est enfui. Donc, ça nous fait comprendre, mes chers frères, qu'avec ou sans intermédiaire, lorsque Allah Ta'ala veut envoyer sa nusra, Allah Ta'ala envoie sa nusra. Et lorsque Allah Ta'ala envoie sa nusra par l'intermédiaire de choses qui sont attrayées au ghaib, à l'invisible, nous ne le voyons pas. Mais d'autres créatures le voient. Les shayatins le voient. Les êtres maléfiques voient les bonnes choses. Donc nous devons avoir iman, yaqin, qu'Allah aide nos frères musulmans et qu'Allah Ta'ala est capable de nous aider dans n'importe quelle situation, avec ou sans intermédiaire. Et ça, c'est une habitude de Shaitan. Il embellit les actions, il vous accompagne, il vous encourage. Et lorsque les problèmes arrivent, lorsqu'il voit que c'est plus le moment de continuer à mentir, là, il s'enfuit. Dans un verset du Coran, Shaitan, il dit, le jour de Qiyamah, il dira aux gens qui l'ont suivi, au kuffar, au fussar, au munafiqoun, wa qala Shaitan. Et Shaitan dira, لما قضي الامر, lorsque tout est fini, hein, lorsque les gens vont entrer dans le paradis, dans un enfer, ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. En ce sens qu'Allah Ta'ala vous avez fait une vraie promesse, ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. Et c'est moi qui vous a non, c'est vous qui vous êtes comment vous dire فاخلفتكم, c'est vous qui vous êtes soustrait, c'est vous qui avez tourné le dos à cette promesse. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ. Et moi, je n'avais aucun autre pouvoir. إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ. Je n'ai fait qu'une chose. Je vous ai dit, venez, faites ce péché. Mangez ça. Goûtez à ça. Allez voir cette personne. Faites ça. Faites le zina. Allez tromper votre femme. Ou tromper votre mari. Ou faites ça. Etc. etc. Ça, c'est moi qui rajoute. إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ. Et que je vous ai juste fait le da'wa. Je vous ai pas obligé, moi. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Vous avez écouté. Vous m'avez répondu, fastajab tumli, après, la da'atukum fastajab tumli, fala taloumouni, waloumou anfusakum. Shaitan, il dira à ces gens qui sont dans l'enfer avec lui, ne me faites pas de reproches. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Donc Shaitan, il fera des reproches, il dira, ne me faites pas de reproches. C'est vous-même les responsables. Moi, je fais que vous inviter, je ne vous ai pas obligé. C'est vous qui m'avez écouté. Et puis tout le monde, les personnes qui sont avec Shayatin, ils seront tous dans le Jahannam. Nasrullah al-Afiyah. Et ça, c'est la tromperie de Shaitan. Et nous, nous sommes sujets à tomber dans ce genre de piège. Sauf celui qui a la foi en Allah et qui a la crainte d'Allah dans son cœur. Et puis, il y a d'autres descriptions, comment les anges, Subhanallah, ils terrassaient ces kuffars. Ils ne voyaient même pas de combattants. Il y avait, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Hein, ça peut être violent. Hein, il dit que وَلَوْ تَرَا إِذَا تَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Les anges, ils venaient les frapper de devant. Et ceux qui essayaient de s'enfuir, ils les frappaient par derrière. C'était vraiment un azab qui a terrassé l'armée des Quraysh. Et j'avais voulu te préciser également, hein, quand ils s'étaient sortis avec fierté, ils avaient amené les tambours, ils avaient amené le vin. Pour eux, ça allait être une grande victoire. C'est comme si ils allaient gagner 6-0, 7-0, là. Vous pouvez dire ça comme ça. Ils amenaient le vin, les tambours. Il a dit que, et on veut que les Arabes, à toutes les époques, ils chantent et ils lisent des poèmes racontant notre victoire historique sur l'armée de Mohammed. Ils étaient sûrs d'eux. Regardez comment Allah Ta'ala les a terrassés. Voyez. Deuxième point. Deux points, c'est suffisant, Inch'Allah. Même si c'est samedi soir, deux points, c'est suffisant. Autre verset, ça c'est un peu à la fin de l'explication de la bataille de Badr et de l'animosité qu'il y avait entre les mouchriquins, les polythéistes et, le prophète, et les musulmans, le prophète sallam. On voit comment Allah subhanahu wa ta'ala a encouragé le prophète sallam à aller vers la paix. Quand il y a possibilité d'avoir ou d'engager un pacte de paix, il ne faut pas hésiter à le faire. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils veulent, en ce sens, ils veulent un engagement, un pacte de paix, hein, al-musalama wa al-musalaha, fajnah laha. Donc, accepte. Wa aqbil minhum dhalik. Accepte, ô Muhammad, hein, et on a eu l'exemple de, si je ne me trompe pas, c'est en l'an 6 de l'Égypte, lors de la campagne, lorsque les musulmans, ils sont sortis pour le Umrah, et que les kuffars ne les ont pas laissés entrer à Makkatul Mukarrama, ils ont signé un traité qu'on appelle le sulh de Hudaybiyah, où il y avait des conditions en apparence défavorables aux musulmans, et les sahaba ne comprenaient pas pourquoi le prophète sallam acceptait un tel engagement qui nous est défavorable. Ils n'avaient pas compris. Le prophète sallam, il voyait beaucoup plus loin. Ce pacte de paix garantissait, si je ne me trompe pas, 9 années. C'était un pacte qui garantissait 9 années de paix, non-agression entre musulmans et les polythéistes de Makkah. Et cela a permis au prophète sallam de faire une da'wah comme il n'a pas pu faire avant avec les moulouks, avec les rois, avec la tranquillité, sans qu'il n'y ait de représailles ou d'attaques de la part des Quraysh, jusqu'à ce que les Quraysh eux-mêmes, ils ont rompu le pacte. Taïb. Et une fois, le prophète sallam avait dit également, hein, aux sahaba, « Innahu sayakounu ba'di ikhtilaf, fa inistata'ata an yakuna sulma fa'fa'al » Après moi, il y aura des divergences. Si vous pouvez arriver à la paix, alors faites-le. Nous comprenons à travers ce verset que l'islam encourage à la paix. Il n'y a aucune raison de se battre ou d'avoir des soucis ou des conflits avec des gens. Tant qu'on peut instaurer la paix, c'est quelque chose de profitable. Tant que les musulmans peuvent continuer, bien sûr, à pratiquer leur deen. Et Allah dit à la fin, hein, accepte donc le pacte de paix. Wa tawakkal 'ala Allah. Et fais confiance en Allah. Et on ne croit pas que c'est parce qu'on a fait un pacte qu'on est tranquille. Non. On a fait l'effort et puis on met le yaqin, on met notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point, si vous me permettez, on a 12 minutes. Wallahi, ça c'est important ça, pour al-ulfa, pour la muhabba, pour l'entente qui doit exister dans une communauté. Ça, c'est la condition pour avoir la nusrat d'Allah, que nos cœurs soient unis. وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Dans ce verset, Allah ta'ala du prophète sallam, c'est... C'est-à-dire que c'est Allah qui a aidé le prophète par son aide, également par les musulmans, et c'est Allah qui a uni le cœur des musulmans. Et en commentaire, les Mufassirins disent, les Kathir, ils disent qu'avant cela, les Arabes de Madina Munawwara, c'est-à-dire les Ansar, ils étaient très divisés entre eux. Il y avait des guerres tribales permanentes entre les Aws et les Khazraj. Et c'était des guerres qui duraient depuis des générations, des générations. C'était le genre de conflit qui ne devait jamais aboutir. Il n'y avait aucune raison pour trouver une solution. Mais Allah Ta'ala fait en sorte que les cœurs des musulmans, par la lumière du iman, soient unis. Il n'y a jamais plus eu de conflit ou d'animosité entre Al-Aws et Al-Khazraj. Allah Ta'ala dit pour ça, c'est pas toi, hein. C'est Allah qui a mis la muhabba dans le cœur. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bayna qulubihim, ô Muhammad. En ce sens, même si tu avais donné tout ce que tout ce que ce dunya contient comme richesse, jamais tu n'aurais amené la paix et la muhabba, l'entente dans le cœur. Mais c'est Allah, walakin Allah, allafa bayna, c'est Allah qui a mis l'entente dans le cœur. Et nous comprenons à travers ce verset, mes chers frères, qu'il est extrêmement important que les musulmans qui forment une umma, une communauté unie avec un noyau qui est le tawhid, l'unicité d'Allah, notre iman. Il est important que dans une communauté, que nous soyons d'origine indienne, mauraise, comorienne, malgache, que nous soyons maghrébins, jazaïris, algériens, quelle que soit notre nationalité, sauf si on est martien, là ça va être beaucoup plus difficile, nous devons toujours être unis. Nous ne devons pas entretenir la haine ou les mauvaises pensées et les préjugés entre nous. Nous devons faire le maximum pour que la Oumma reste unie et qu'il y ait la solidarité et l'entente dans la communauté. Vous voyez ? Car nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que le prophète a dit, il nous a annoncé que si deux personnes, hein, ils ont rompu les relations, ils ne se parlent plus, ils ne font même plus salam, quand un, il marche une rue, la traverse pour pas le voir même, alors si cela, cette situation dépasse trois jours, alors leurs actions ne sont plus acceptées par Allah. Ça c'est extrêmement grave. Deux frères musulmans, je ne dis pas frères de sang, deux frères en islam, ça peut être moi avec la personne, on n'a pas de lien de parenté. Si deux personnes ne se parlent plus, ils gardent rancune, à un tel point qu'ils ne se font même plus salam, alors au-delà de trois jours, les actions, mes chers frères, ne sont plus acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est extrêmement grave. Parfois on se démène, on fait beaucoup de bonnes actions, des khatm al-Qur'an, nos tarawih, on fait une heure de temps, je ne sais pas, une heure de temps et demie, on est fatigué, mais on tient le coup, on essaie de tenir le coup, sachant quelles sont les récompenses. Maintenant pensez si nous avons des membres de la famille avec lesquels nous avons rompu des relations depuis longtemps, qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort, mes chers frères. C'est nous qui devons faire le premier pas et demander à ce qu'on renoue les relations. Maintenant, si la personne dit non, moi, tu ne m'intéresses pas et tout, bon, ça, Allah, il sait maintenant qu'on a fait notre premier pas. Extrêmement important, mes chers frères, hein, avant d'accomplir beaucoup de bonnes actions, nous devons nous assurer qu'on n'a pas oppressé des gens ou qu'on n'a pas rompu de relations avec une personne. Hein. Et plus encore, quand les relations concernent la famille, et plus encore, quand les relations concernent les liens de parenté. Si nous avons la chance d'avoir notre père ou notre mère vivant ou vivante, mes chers frères, on expliquait ça la dernière fois, le dimanche dernier, un père ou une mère vivant, c'est un passeport direct pour le Jannah. Que notre père ait 35 ans, 40 ans, 80, 90 ans, ça restera toujours notre père. Que nous soyons chômage, que nous soyons, je ne sais pas, médecins, chirurgiens, même si un jour nous devenons premier ministre ou président de la République, ce qui ne risquera jamais d'arriver, voyez, voilà, même si nous avons les plus hautes distinctions de l'État, notre père restera notre père. Notre maman restera notre maman, même si elle ne sait pas lire, si elle ne sait pas écrire, et même si nous avons Bac plus 10, plus 12, un an plus finir. Voyez, une fois, Abu Huraira, radiallahu anhu, il a vu un homme marcher dans la rue, derrière un homme, une autre personne. Il a dit, man hada, qala abi. Il a dit, qui est cette personne, hein, derrière laquelle tu marches? Il a dit, mon père. Un enfant, il marche derrière son père. De nos jours, nous voyons beaucoup d'exagération dans beaucoup de choses. On ne va pas entrer dans les détails, mais c'est derrière un papa qu'on marche. On ne marche pas, même derrière Moulissab, il n'y a pas à avoir tant de respect. C'est derrière un père qu'on marche. Abu Huraira dit à cette personne, la tad'uhu bi ismi. Il a donné des conseils, il dit, c'est ton père. Je te donne quelques conseils. N'appelle jamais ton père par son prénom. Voilà tajlis qablahu. Quand ton père, quand vous êtes dans un endroit où vous allez vous asseoir, il ne faut jamais t'asseoir avant ton père. Voilà tamshi amama. Et ne marche jamais devant lui. Ce sont là des conseils qu'Abu Huraira a donné. Ce sont là des signes de politesse et de respect qu'un homme doit avoir uniquement envers son papa ou envers sa maman. Vous savez, je me souviens qu'il y a un mois et demi, on avait reçu un diplomate qui venait de Riyad, qui était donc à la Réunion pour deux ou trois jours. Et donc, il était à la maison chez mes parents, chez mon père. On devait prendre un petit déjeuner hein, avant d'aller le centre islamique de Saint-Pierre. Et donc, comme on était un peu pressé, il n'y avait pas la route des Tamarins, il n'y avait pas encore ce grand Niamat. Et donc, on devait faire vite pour arriver à Saint-Pierre. Il y avait tout un tas de programmes qui nous attendaient. Et donc, on devait prendre un petit déjeuner. Et j'étais chez mon père. Et donc, mon père, il tardait un petit peu pour venir à table. Il dit, Cheikh, khalas, on va commencer à manger. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, mais on mange, j'ai besoin de prendre la route pour aller Saint-Pierre. Elle dit, ton père de cette maison, tu oses t'asseoir, tu touches la nourriture avant lui. Elle dit, chez nous, regarde, jamais on ferait un truc comme ça. Il dit, ah bon? Il dit, c'est pas un péché. Il dit, même si c'est pas un péché, c'est un manque de respect. Ça, c'est ton père, ça. Une deux fois, j'ai eu des petits claques comme ça avec lui, et j'ai compris comment il donne de l'importance. C'est des gens, des diplomates, mes chers frères. C'est pas maman à l'école, c'est quelqu'un qui travaille dans une ambassade. C'est des gens, ils ont des diplômes, ils sont reconnus sur le plan international. Maintenant, il a été nommé, alhamdoulilah, au ministère directement à Riyad. C'est des gens, alhamdoulilah, et c'est une famille très connue là-bas. Et donc, il dit qu'un père, restait un père, mes chers frères. Et pas mal de cas de figure comme ça. Il dit que, voilà, qu'on était parti à Saint-Pierre aussi. Il est en train de, je tente de dire que, voilà, Saint-Pierre, ça fait 100 km. C'est très loin. Il a dit, 100 km, c'est très loin. Il a dit, mais c'est une blague, ça, 100 km, là. Il a dit que moi, j'habite à Riyad, dans la centre-ville, d'accord? Ma mère habite dans un village autour de Riyad, qui est à 50 km. Tous les soirs, je prends ma voiture, je vais voir ma maman, juste pour l'embrasser sur son front, et puis je rentre chez moi. Il a dit, tous les soirs, je ne rate pas un soir, il n'y a pas un soir où je me couche sans aller voir ma maman qui habite à 50 km, j'embrasse ma maman. C'est pas comme, je sais pas, de nos jours, si c'est à ce moment parce qu'on a un bon manger. À ce moment-là, on a fait un bon curry qui est pas si, la déjeuner n'est pas qu'une angousse, ou alors, on a fait un bon badaba aussi, madré. Hein, ben, on va aller, on va faire salam et on va se nourrir un petit peu. Vous voyez? Non! C'était pas, il n'y a pas ce genre d'objectif. Elle dit, je vais voir ma maman, j'embrasse ma maman et je refais les 7. Non, il a fait 100 km. Il fait 100 km par jour uniquement pour embrasser sa maman sur son front. Parce qu'il sait que le prophète m'a dit que la clé du paradis, c'est sous les pieds de ta maman. Si quelqu'un, il y a d'autres hadiths, là on est en train de tout mélanger, mais Inch'Allah le principal sortira. Le prophète dit dans le hadith que celui, là il y a trop le jannata'at, celui qui a désobéi à ses parents, n'accède pas au paradis. Mes chers frères, un papa, une maman, ils ont toujours raison. Même si, dans l'apparence, ils ont tort dans un, mais ils ont peut-être tort dans un sujet. Dans une source de conflit, il y a une incompréhension. Mais pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, on ne peut pas pour une source de divergence que tu m'as dit de faire ça, il a dit non, on m'avait dit on fait ça, je sais pas, des choses bêtes, on m'avait dit on achète telle manque de riz ou l'achète telle manque. Ça n'a aucun intérêt. Et on voit que pour des choses futiles, il y a des enfants, subhanallah, qui tiennent tête à leurs parents. Alors que tu étais bébé, ta maman te changeait, il te nettoyait, subhanallah, ce que les parents, ce qu'une mère peut faire pour son enfant, ce qu'un père peut donner, il peut sacrifier, il peut travailler matin et soir, transpirer juste pour amener le rosy, pour acheter du lait, pour acheter à manger les enfants. Quel degré d'ingratitude avons-nous atteint que des enfants de nos jours, ils sont prêts à rompre des relations ou alors à argumenter, comme on dit en créole, répondre. Si le père ou la mère dit que non, c'est pas moi, c'est autre femme. A'oudou billah. Quand la parole du Coran a été dit aux musulmans de dire quoi? Voilà, taqul lahuma, ouf! Ouf, c'est ce qu'il y a de plus minime. On pourrait dire en français, ouf, oulala. Dans chaque langue, il y a ces onomatopées, comme on dit. Et dans le Wahid, il dit que si Allah Ta'ala savait qu'il existait un mot moins grave que ouf, Allah l'aurait mis dans le Coran. Mais ça, c'est la moindre des choses. On n'en parle non plus. Argumenter ou répondre, savez, ou dire des paroles déplaisantes, ou même insulter ou couper les relations avec les parents. A'oudou billah. Et pour ça, je reviens pour le hadith, que celui qui a désobéi à ses parents n'entre pas au paradis. Dans une autre version, il dit que, wallahu amila ma amila, quelles que soient les bonnes actions que cette personne a faites, s'il y a mécontentement de ses parents, le paradis ne sera pas accessible. Et le prophète ne ment jamais. Et en commentaire de ce hadith, on est en train de dépasser un peu le temps, les muhadithins disent que lorsque le prophète dit que là, il y a trop le jannata'at, ça veut dire quoi? Comment ça se fait? Il a iman cet enfant. Et les ulama, ils expliquent que cette personne aura, qu'Allah nous protège, sous ul-khatima, une mauvaise mort. Allah Ta'ala lui accordera, nous tout le temps, Allahumma rzuqna husna al-khatima, accordez-nous une mort correcte, avec le iman dans le droit chemin, dans l'accomplissement du bonne action. Parce que l'être humain est ressuscité, par rapport à la situation, il est mort. Et cette personne aura une mauvaise mort et qu'Allah nous protège. Donc ça, c'est vraiment la pire des choses. Et dans les versets qu'on avait vus il y a quelques jours, on a dans Ashab al-A'raf, Ibn Kathir, rahimahullah, il donne deux opinions sur Ashab al-A'raf. Parmi ces opinions, ce sont des gens qui ont été dans le chemin d'Allah, mais avec le mécontentement de leurs parents. C'est-à-dire que le paradis, l'enfer ne peut pas accepter quelqu'un qui est mort dans le chemin d'Allah. Mais en même temps, l'enfer ne peut pas brûler le corps de quelqu'un qui est mort dans le chemin d'Allah. Mais en même temps, le paradis ne peut pas accepter le corps d'une personne, ne peut pas accepter une personne qui a désobéi à ses parents, une personne dont les parents étaient mécontents d'elle. Donc ça, c'est un péché, c'est la pire des choses. Il n'y a rien de plus dramatique qu'une personne dont les parents meurent sans qu'ils soient satisfaits de leurs enfants ou des enfants qui n'ont pas obtenu le contentement de leurs parents du vivant de leurs parents. Taïb. Voilà. Et il y a une petite histoire, on finira avec ça. C'est l'histoire où une fois Aïcha était en voyage avec le professeur Sallam, je ne sais plus c'était quelle campagne, elle avait perdu son collier. Et donc ils étaient en train de chercher, et le professeur est resté avec elle, avec d'autres musulmans, d'autres sahaba. Certains sahaba, ils ont dit, oh Abou Bakr, regarde ce que ta fille, elle a fait. À cause de ça, hein, elle est en train de retenir le professeur et le reste de l'armée. Alors que là, ils vont devoir dormir dans cet endroit, il n'y a même pas d'eau. Tu vas faire le wuzou le lendemain. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Fais comprendre à ta fille. Abou Bakr était très en colère. Il est parti voir Aïcha. Aïcha dit, Fa'atabani, il m'a fait tellement de reproches. Wa qala ma sha Allahu an yaqul, il a dit des choses, tout ce qu'Allah voulait dire, qu'il a dit. Wa ja'ala yut'inuni bi yadi, il me faisait des signes, des gestes. Abou Bakr, hein, on pourrait dire, on va pas dire de gros mots, mais il a vraiment apostrophé de façon très virulente sa fille Aïcha radhiallahu anha. Et de la hadith, Aïcha n'a pas dit un mot. Aïcha aurait pu dire que, attention, je ne suis plus une jeune fille, je ne suis plus une petite fille, je suis mariée. Elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit non plus que, attention, je suis mariée avec le prophète sallam. Je suis l'épouse préférée du prophète sallam. Qu'est-ce que tu dis là, papa? Elle n'a rien dit. Elle aurait même pu dire, et elle aurait eu peut-être raison de le dire, si elle avait dit, c'était peut-être vrai, que mon prophète est d'accord. Il accepte de rester à cet endroit. Et si le prophète est d'accord, personne de l'humanité n'a plus rien à dire. Et c'est la vérité. Mais Aïcha n'a rien dit. Tellement elle respectait son père. Que ce soit Abou Bakr, même si c'était quelqu'un d'autre, les sahaba, ils avaient compris l'importance d'un père et l'importance d'une mère. Mes chers frères, ça c'est la base du iman. Quand la Allah, dans le Coran, il dit « Wa qada rabbuka la ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana » Les deux choses qu'Allah demande en priorité, Allah ta'budu illa, n'adorez rien qu'Allah. Mais ça, tout le monde, alhamdulillah, dans cette assemblée, nous sommes tous musulmans. Et Allah donne la mort avec iman aussi. Deuxième chose, Allah ta'ala demande d'agir correctement envers les parents. Juste après le droit d'Allah, Allah demande le droit des parents. Si nous n'avons pas eu ces deux choses-là, mes chers frères, le paradis ne sera pas accessible. Qu'Allah ta'ala nous pardonne pour nos erreurs. Et s'il y a eu des manquements dans nos relations, moi en premier, hein, nous sommes jeunes, encore un peu jeunes quand même. Ça arrive parfois qu'on est agacé. On aurait aimé développer encore un peu plus, mais on a déjà fait 26 minutes, même si demain c'est dimanche. Mais subhanallah, quand vous voyez qu'est-ce que les ulama disent en termes de respect, non seulement ne pas répondre, ne pas dire des paroles désobligeantes, ne pas argumenter face aux parents. Elle dit même, on ne regarde pas son père dans les yeux. Elle dit même que si vous êtes mécontent, ça arrive parfois, notre papa ou notre maman nous dit quelque chose, elle dit qu'il faut faire en sorte que les parents ne détectent pas le mécontentement de votre visage, de votre regard. Parce que ça se voit quand quelqu'un est en colère, il fait un visage un peu renfrogné, renfermé. Elle dit, votre père ou votre mère ne doit même pas voir le mécontentement de votre visage. Tellement les ulama donnent de l'importance au moindre signe qui pourrait être mal interprété par les parents. Qu'Allah donne tawfiq, mes chers frères, moi en premier, et à nous tous de comprendre ces quelques paroles, de faire un mal, de mettre en pratique, et qu'Allah renforce la muhabba de la communauté, à la réunion comme de la umma tout entière, et qu'Allah raffermisse les liens qu'il y a entre parents et enfants dans différentes générations, que nous devenions vraiment une umma unie, que les petits respectent les anciens, et les anciens ont raham, ont la compassion pour les plus jeunes. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Et petit rappel, demain à 5 clôtures, de 10h30 à 11h30, il y aura donc un mufti de Saint-Denis qui viendra pour faire un programme pour les dames. Ça c'est un. Et deuxièmement, après le salat au dhuhr à la grande mosquée de Saint-Denis, Zohar est 1h15, il y aura un programme donc animé par plusieurs alim sur le thème de l'humanisme en islam. Petit rappel de ce qu'on avait déjà dit hier, ce programme est accessible aux hommes, mais également accessible aux femmes. Fal yuballigh ash-shahid al-ghaib. Jazakumullah khair.